À ce grand projet, s'attaquer au problème des malades de longue durée. Ils sont plus de 500 000 en Belgique, alors qu'à titre de comparaison, on dénombrait 320 000 chômeurs au dernier trimestre 2024. Au programme du gouvernement fédéral, donc, une série de mesures de prévention et de réinsertion de ces malades. Mais sont-elles réalistes, ces mesures? Marie Van Kutsem, on va se le demander avec vous.
Oui, alors précisons-le d'emblée, l'arsenal de mesures est important et concerne plusieurs acteurs que le gouvernement veut, dit-il, responsabiliser. Les médecins, les mutuelles, les organismes de remise à l'emploi, les employeurs et les malades eux-mêmes, bien entendu. Alors on va parler de ce qui va les concerner, elles et eux, ce matin, avec un petit point de vocabulaire peut-être pour commencer. Par malade de longue durée, on entend ici personne en invalidité, c'est-à-dire en incapacité de travail depuis plus d'un an. Céline Decamp est l'une de ces 500 000 malades, elle a 37 ans et elle souffre du Covid long.
Est-ce que je peux vous demander d'attraper une tasse là-haut?
Oui.
Comme ça, je ne dois pas me déplacer.
Ça va, je fais ça.
Et le thé dans le tiroir en bas à gauche.
C'est très costaud au niveau physique. Je me déplace en chaise roulante et j'ai énormément de douleurs et de gros symptômes au niveau physique. Donc je ne sais plus travailler depuis 4 ans et demi.
Céline fait par ailleurs partie de l'association Long Covid Belgium qui a analysé en détail l'accord de gouvernement pour tenter de comprendre ce qui attend les malades de longue durée. Premier axe sur lequel le gouvernement veut travailler, l'accompagnement et le contrôle des malades. Céline nous explique comment ça se passe pour elle.
C'est super compliqué. Il faut vraiment être un roi de l'administratif pour s'en sortir et quand on est malade, bah souvent on est un peu en vrac. On est suivi par le médecin traitant de façon très régulière qui s'occupe des certificats et qui nous suit vraiment de façon rapprochée. On a les contrôles de la mutuelle avec le médecin conseil et éventuellement en plus des contrôles du médecin contrôle à la demande de l'employeur. Pour aller au rendez-vous de contrôle, il faut avoir des rapports de tous les spécialistes qui nous suivent. Alors pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste en certaines catégories, il me faut 9 mois. Donc évidemment, c'est toute une organisation anticipée.
Vous êtes en chaise roulante, vous avez besoin aussi d'avoir quelqu'un qui vous amène, j'imagine, oui. À ces contrôles.
Oui, et à tous les rendez-vous préalables pour avoir les documents justificatifs à amener à ce contrôle. Donc à chaque fois, j'ai besoin d'un aidant qui prenne congé pour m'accompagner. Et évidemment, les spécialistes, ça les fait râler de faire les papiers justificatifs, ils préfèrent s'occuper des soins, et moi aussi. C'est vraiment ce temps administratif se fait au détriment du temps de soins.
Céline craint une augmentation de ses rendez-vous et contrôles qui rendrait son quotidien plus compliqué encore. Elle me disait à ce sujet, ce n'est pas en tapant sur les malades qu'on va les guérir. Elle plaide plutôt pour un meilleur accès aux soins pour soutenir la guérison.
Et dans les projets de la régionale, il y a aussi cette question de l'indemnité de la mutuelle. Elle pourrait être rabotée de 10%, Marie.
Oui, alors ici, on va jeter un petit coup d'œil dans le portefeuille de Céline pour commencer.
Alors, quand on est malade de longue durée, on a un revenu qui est basé sur 40% du salaire qu'on avait auparavant. Si on a la chance d'avoir été employé auparavant, si on était indépendant, c'est plus compliqué. En plus de ça, moi, je suis reconnue personne handicapée. Donc, les revenus de notre ménage ont été analysés. On a eu droit à une allocation supplémentaire pour essayer de se rapprocher du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'on est en dessous. Et donc, oui, moins de ressources, plus de dépenses. Être malade coûte très cher, parce qu'il y a plein de soins qui ne sont pas remboursés. Et plus on est malade longtemps, plus c'est compliqué.
Ici, on a entendu Céline parler de 40% de son salaire pour l'indemnité de la mutuelle. Ça, c'est un calcul qui varie, hein, selon que l'on parle de la première année de maladie ou d'après. Et ça varie aussi en fonction du statut, isolé, cohabitant ou avec charge de famille. Le ménage de Céline est en tout cas aujourd'hui, vous l'avez entendu, sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire, pour un couple avec enfant, en dessous d'environ 3000 euros net par mois. Alors parlons sanctions. Cette indemnité, aujourd'hui, elle peut être rabotée de 2,5% de manière temporaire, en cas, par exemple, de non-présentation à un rendez-vous chez le médecin conseil à la mutuelle. À l'avenir, l'Arizona veut pouvoir sanctionner en supprimant 10% de l'indemnité, et de façon permanente. Mais pour Céline, augmenter les contrôles et renforcer les sanctions, ça fait beaucoup.
Alors quand on entend ça, on peut se dire, bah oui, c'est normal. Sauf qu'en pratique, ma réalité de terrain, c'est que ça m'arrive d'avoir des lettres de convocation qui arrivent après la date de contrôle. Donc je contacte la mutuelle en disant, ben, la lettre elle est arrivée aujourd'hui, je devais venir il y a 3 jours. Ah, on n'est pas responsable de ce que fait la poste. Moi, je fais quoi? Donc le malade, il se débrouille comme il peut dans tout ça, mais c'est un peu le dernier maillon de la chaîne. Et vu qu'il y a de plus en plus de pression à tous les niveaux, c'est le malade qui est déjà dans une situation de vulnérabilité, qui a déjà des difficultés d'organisation, qui a déjà des difficultés financières, qui va avoir encore plus de pression. Mais le malade, tout ce qu'il rêve, c'est de pouvoir reprendre son boulot et sa vie. Le gouvernement Arizona a fort tendance à présenter les malades d'un côté et les travailleurs de l'autre. Les malades sont des travailleurs. Par définition, pour bénéficier d'une allocation maladie, il faut avoir été travailleur. Moi, j'étais comme vous, et puis j'ai eu pas de chance. Et j'espère pouvoir revenir à une vie professionnelle un jour.
Et puis, dans les projets du gouvernement, il y a aussi le fait qu'à l'avenir, les médecins traitants pourraient être amenés à remplir des certificats de capacité. Ça veut dire quoi, ça, Marie ?
C'est ce qu'on appelle aussi une fit note ou un certificat d'aptitude. Les médecins traitants pourraient devoir évaluer quel type et quantité de travail un malade est quand même capable de faire et transmettre ces informations aux médecins du travail. Alors les contours précis de cette mesure ne sont pas encore traduits dans les textes, mais j'ai tout de même demandé à Céline comment elle envisageait cette possibilité.
Mon premier objectif, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est de réussir à marcher un petit peu plus, de réussir à cuisiner, de pouvoir garder ma fille sans backup. Moi, je pars de tout petits objectifs.
Si votre médecin remplit demain un certificat de capacité, comme on disait, en disant vous êtes capable de faire un peu de travail administratif 5 heures par semaine, ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque que je vais y aller et que mon employeur va appeler une ambulance et que je vais me retrouver à l'hôpital.
À ce point-là ?
Ouais, sûr. Moi, je sais très bien que si demain je vais travailler, je connais mon corps. Je vais être en crash directement.
Ce que Céline aimerait, c'est que l'on ose ouvrir collectivement la boîte noire des malades de longue durée et qu'on s'interroge sur les causes profondes de l'augmentation de leur nombre, l'âge de la pension qui est reporté, les conditions de travail, la pression générale.
Voilà, témoignage.